France Inter.
L'artiste visuel Camille Lévesque mélange dans son œuvre photographie, collage, travail textile, vidéo et installation. Diplômée d'un bachelor en arts appliqués et littérature de Paris 8 et d'un master en arts appliqués de l'Université de Californie à Los Angeles, celle qui s'intéresse à l'identité, la mémoire et la mythologie familiale a vécu en Arménie, où elle travailla pour l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, en France, où elle fut assistante éditoriale chez Magnum Photo, puis aux États-Unis. Depuis plus d'une décennie, elle mène une enquête iconographique et photographique intitulée « À la recherche du père », dans laquelle elle s'interroge sur le rôle de ce dernier et ses représentations. Un beau livre vient de paraître sous ce titre aux éditions Delpire & Co et fera l'objet d'une exposition aux Rencontres d'Arles du 7 juillet au 5 octobre. Et d'ailleurs, ce n'est pas qu'iconographique, puisqu'il y a des textes et des entretiens passionnants, mais vous verrez, j'entrerai dans les détails pendant cet entretien. Si vous allez voir ce qu'elle poste sur un réseau social, vous tomberez sur des dents, des icônes, des statues, des animaux, des détournements kitsch, des collages ou des danseuses, fruits d'expérimentation et d'œuvres réalisées par l'une de ces sept artistes qui la composent. Je reçois donc ce soir la membre d'un collectif formé par un seul corps et plusieurs psychés. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Camille Lévesque.
Bonsoir.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmée ?
C'est d'emmener ma fille en Arménie pour la première fois.
Elle a quel âge ?
Elle va avoir 4 ans.
Vous lui avez donné un prénom arménien ?
Entre autres, elle s'appelle Nour, ce qui veut dire grenade en arménien, et lumière en arabe. Et j'avais choisi ce prénom parce qu'il faisait pour moi écho à l'Arménie, mais aussi à l'Orient en général. Il est présent dans pas mal de pays, au Liban, en Iran. C'était quand même quelque chose à la fois assez significatif et d'assez global. Et je trouvais ça assez beau comme idée.
Vous avez vécu en Turquie aussi ?
Un petit peu, oui, j'ai vécu à la frontière entre la Turquie et l'Iran, au pied du mont Ararat, côté turc.
Et vous avez travaillé sur le mont Ararat et sa symbolique ?
Oui, beaucoup.
Qu'est-ce qui symbolise pour vous ?
La maison, le réconfort, le lien entre les Arméniens, l'histoire. Vraiment, ce lien entre Arméniens d'Arménie et la diaspora arménienne, c'est vraiment un endroit de réconfort pour moi.
En Arménie, vous avez travaillé plusieurs années pour l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés.
Oui.
Qu'est-ce que vous y faisiez ?
Je travaillais dans différents centres d'accueil, notamment dans la banlieue d'Erebouni, en banlieue d'Erevan. Et je prenais en photo, je faisais vraiment un travail de photojournaliste. Je faisais des entretiens et je prenais en photo des réfugiés du Karabakh qui avaient fui pendant la guerre dans les années 90 et qui étaient en attente de papiers, en attente de relocalisation depuis les années 90, donc depuis plus de 15 ans. Donc l'idée, c'était vraiment d'aller chez eux, dans ce centre, dans ces différents centres, à plusieurs reprises, au fil des mois, au fil des années, de prendre des photos et de ramener toute cette base de données à l'UNHCR, à Erevan.
Vous faites partie de la génération des petits-enfants des survivants du génocide de 1915 en Arménie. Et vous dites que vous ne vous sentez chez vous nulle part et partout à la fois. Et vous vous demandez si c'est parce que votre famille a dû quitter l'Arménie.
Oui, je me pose parfois cette question. C'est du fait aussi que j'ai beaucoup déménagé, j'ai beaucoup vécu dans des lieux différents. Et il y a vraiment cette idée de confort, d'inconfort et aussi de confort dans l'inconfort. C'est vrai que j'ai l'impression d'appartenir, j'ai pas vraiment l'impression d'appartenir à la France, d'être vraiment, d'avoir une pensée nationaliste. Et je m'y sens pas pourtant mal pour autant et je me sens bien dans plein d'endroits différents. Ma maison, pour moi, c'est dans plein d'endroits différents. C'est aussi ma famille, ma maison. Et comme je travaille beaucoup sur l'épigénétique, la transmission du trauma et toutes ces notions-là, je me demande, évidemment, je me questionne sur ce lien, cet attachement au lieu, ou ce détachement au lieu, ça dépend comment on le voit, si c'est lié à cet exil.
Quelles sont les différences culturelles majeures ou dans la façon d'exprimer les émotions qui vous ont frappé entre les États-Unis, la France et l'Arménie ?
Oh, c'est un long sujet. Je pense que vraiment, pour moi, la plus grosse différence, la plus grosse claque culturelle, c'est les États-Unis. Il y a vraiment une différence culturelle, je pense qu'on sous-estime énormément. C'était très difficile pour moi de créer des liens, de tisser des liens, vraiment, que je qualifierais de liens authentiques. C'est très facile d'être entouré, mais c'est très facile de se sentir seul en étant entouré. Et ça a été difficile pour moi de créer des amitiés, d'avoir des échanges vraiment qui me semblaient honnêtes. Quels que soient les endroits où j'habitais, j'habitais dans différentes villes, dans différents états, et c'était un peu pareil partout. Je pense que je suis à la fois fascinée, j'ai vraiment un amour-haine pour les États-Unis. Je suis fascinée par cette culture, je suis fascinée par ce pays, mais il me terrifie et il me désole. Je suis souvent atterrée de toutes les nouvelles que je vois, mais avec beaucoup d'amour en même temps et d'empathie. Et de... C'est vraiment ambivalent. Et vraiment, il y a ce côté... Le déclin de l'Empire américain, où tout le monde a l'air déshumanisé, tout va très vite, tout est digitalisé, tout est vraiment inhumain, je trouve. Et c'est ça vraiment que je trouve la plus grande différence, on va dire, culturelle. Et avec l'Arménie, c'est vraiment quelque chose qui me manque un petit peu et que j'aime beaucoup. C'est le lien à la famille, le fait d'habiter avec les grands-parents. Moi, j'ai grandi, on a vécu chez ma grand-mère quand j'étais petite. C'était un lien très fort, c'était magnifique. Et en France, c'est pas du tout fréquent. Enfin, c'est quand même assez rare, c'est pas la norme. Et ce côté de tradition qui peuvent paraître un peu désuètes, mais la tradition de la famille, vivre avec toute sa famille, être un peu sur des traditions un peu plus simples. Ça paraît, enfin, il ne faut pas entendre de condescendance dans ce mot, mais vraiment plus simple, qui me manquerait un peu ici. Et c'est vrai que je fantasme un peu parfois ça pour ma fille, une vie un peu plus simple en Arménie. Alors pas sur le plan géopolitique, évidemment, mais vraiment dans les liens entre les personnes, notamment dans la famille, à l'école, quelque chose de plus humain, encore plus humain.
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
Je suis avec l'artiste Camille Lévesque. Vous vous opposez aux catégorisations en disant que la photographie est presque anecdotique dans votre pratique.
Oui.
Et vous vous opposez aussi aux limitations de l'identité, puisque vous avez créé en 2014 le collectif Live Wild, qui aurait pu être créé par Pessoa, puisqu'il réunit 7 artistes, vos 6 alias et vous-même.
Mm-hmm.
D'où est venue cette idée ?
De Pessoa.
Ah oui ?
De Pessoa, entre autres, de Boris Vian. C'est vrai que la plupart de mes influences et de mes inspirations viennent de la littérature. Et Pessoa, la découverte de Pessoa m'a vraiment complètement chamboulée. Boris Vian aussi, depuis la préadolescence, je suis fan absolue de Boris Vian.
De Vernon Sullivan aussi, alors.
Exactement, de Vernon Sullivan et de pourquoi cet alias, des raisons pareilles. George Sand, en fait, c'est très présent dans la littérature. Et quelles que soient les raisons, que ce soit des raisons de genre, d'une mutation par rapport à son genre, ou des peurs, par exemple, de réception de son œuvre quand on est une carrière établie, dans le cas de Boris Vian avec Vernon Sullivan, c'était quand même des romans assez sulfureux. Ou alors vraiment dans des performances totalement artistiques, créatives. Bon, Pessoa, il le pousse à l'extrême, on est à plus de 72 alias. Lui, c'est beaucoup plus aussi un travail sur la plume, ce qui était un petit peu les exercices de style de Raymond Queneau aussi. C'est vraiment à chaque nom, on développe une identité littéraire. Il y a vraiment tout un travail du texte qui est quelque chose que j'ai modestement voulu refaire avec le collectif. Sous chaque nom, évidemment, il y a une manière de penser, une manière de créer qui est différente les unes des autres.
Alors, les noms que vous utilisez, ce sont des noms de femmes de votre famille.
Tout à fait.
Elles vous ont donné leur accord pour celles qui sont vivantes?
Pour la plupart, elles sont décédées. Et en fait, j'ai pris les noms, j'ai mélangé les noms et les prénoms, donc de mes sœurs, de grandes tantes, de grand-mères. Donc mes sœurs, j'ai pas demandé leur accord, je dois le dire, et j'ai fait vraiment ce mélange entre les noms et les prénoms, et le travail sur les biographies, ce qui est ce que faisait aussi Pessoa, de créer des biographies imaginaires. Ces biographies, elles sont un peu la synthèse de ce que je fais avec mon travail, ce qui est mélanger le vrai et le faux. Il y a toujours une partie de jeu, et c'est pour ça que je parle de mythologie familiale. C'est un peu essayer de faire ma paix avec tout ce qu'on nous transmet dans la famille et qui est toujours un petit peu... c'est pas tout à fait vrai, c'est pas tout à fait faux. On sait pas si on retransmet des choses qui sont un petit peu avec le passage du temps, avec la perception individuelle, pas forcément dans la vérité vraie, la vérité pure. Donc ces biographies, c'est vraiment faire honneur aux femmes dont j'emprunte les noms, mettre des anecdotes, des lieux, des dates qui sont réelles, mais avec des exagérations ou des approximations dans le traitement de la pratique.
Alors parmi vos hétéronymes, Camille Lévesque, on trouve une Ukrainienne, deux Arméniennes, une Canadienne, une Franco-Russe, une Belge et vous. Parlons de chacune. D'abord, Charlotte Foss, on prononce bien le S à la fin ?
Oui.
Alors elle est canadienne, j'apprécie beaucoup son travail, c'est Latin Studies, c'est des statues antiques sur des ciels étoilés ou diurnes, et est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur elle ?
Oui, alors Charlotte Foss, c'est donc le prénom Charlotte, c'est le prénom que j'étais censée avoir à la naissance. Donc symboliquement, comme c'est quelqu'un que j'aurais pu être mais que j'ai jamais été, c'est vraiment, pour elle, j'ai choisi tout un travail qui était très digital, donc qui existait vraiment dans l'ère digitale, mais pas dans l'ère concrète. C'est pas du travail manuel, c'est pas du collage organique, c'est vraiment tout est fait sur ordinateur. Donc c'est un travail qui est très kitsch, qui est vraiment obsédé autour des références romaines, antiques, mais vraiment dans un traitement. J'aime beaucoup le kitsch, ça peut se voir dans mon travail. Et Fosse, c'est le nom de ma grand-mère paternelle que je n'ai jamais connue, qui était galeriste et qui avait une galerie d'art et qui était très proche des surréalistes. Donc c'est pour ça aussi que j'aime bien faire un clin d'œil aussi à ce mouvement-là, à ces idées-là, à ce traitement de l'image.
Je crois que Lucie Raoutian est aussi inspirée d'une grand-mère.
Oui, c'est ma grand-mère maternelle qui a fui le génocide arménien, justement, avec qui on a grandi, dont on était très très proche et qui on a vécu. Et elle, elle a un peu un traitement de faveur, parce que je l'ai connue, j'ai vécu chez elle, elle a ce lien à l'arménité, donc c'est vraiment un lien qui est très fort. Et elle est un peu privilégiée dans ma pratique, c'est elle que je fais le plus travailler, on va dire. Et c'est aussi elle qui a la meilleure réception publique, donc c'est l'artiste la plus prolifique du collectif après moi.
Est-ce que c'est déjà arrivé qu'un média ne sache pas que vous étiez plusieurs ?
Constamment. Constamment, parce que c'est quelque chose, moi j'aimais beaucoup le jeu au départ, j'aimais beaucoup cette idée de jouer un petit peu avec les journalistes, de voir s'ils allaient fouiller.
J'ai trouvé des articles sur un de vos alias, mais sans qu'on vous cite.
Oui, complètement, parce que jusqu'à 2017, je ne l'avais pas du tout annoncé. Et finalement, je l'ai mis noir sur blanc sur le site du collectif, je pense, en 2022. Donc là, si on cherche, on trouve. Mais ça arrive encore aujourd'hui qu'on me demande une interview ou une commande sous un autre nom, sans vraiment savoir que c'est un alias et que c'est moi. Mais ce qui est assez amusant, c'est à plusieurs occasions, il y a eu des invitations à des festivals ou dans la presse sous différents noms en même temps. Et ça, c'était super drôle parce que ça permettait vraiment de jouer dans cette performance aussi un petit peu de l'artiste.
Que vous avez même fait des expositions en duo avec vous-même, oui. Summit Meeting. Et Lila Rosrovian, qui aime bien les chats et les chiens, comme Anna Outhoff d'ailleurs.
Alors j'ai fait beaucoup d'expos en duo, on peut dire des faux duo shows avec Lucie Raoutian, donc ma grand-mère. Là c'était vraiment aussi pour parler de tout ce travail que je fais sur l'héritage familial, donc dans mon cas de l'arménité, et cette discussion intergénérationnelle. Sur comment on voit l'Arménie, comment on voit cet héritage, qui est un héritage extrêmement douloureux. Le génocide arménien, c'est un génocide qui n'est toujours pas reconnu en 2025 par le gouvernement turc. Donc c'est en fait vraiment réfléchir à des conversations que j'ai eues avec ma grand-mère et puis d'autres conversations que je n'ai jamais eues avec elle et réfléchir à un dialogue iconographique avec elle où sa voix, elle, est beaucoup plus légère. C'est la voix d'un enfant presque avec une iconographie avec des fleurs, des couleurs, beaucoup de symbolique, beaucoup de grenades. Et ma voix, moi, qui est beaucoup plus sévère, beaucoup plus académique, où on est plus dans la recherche, la quête et avec des images documentaires.
Y en a-t-il une qui ne vous ressemble absolument pas ?
Non. Non, je ne pense pas. Il y en a dont je pense que j'ai mis une distance plus forte entre leur identité et ce travail, parce que c'est des personnes que je n'ai pas connues. Mais je pense qu'il y a vraiment une énorme partie de moi-même dans chacun des travaux et que je pourrais me retrouver et défendre bec et ongle tous les travaux parce qu'ils me ressemblent.
Yekche Manoukian, ils m'ont enlevé mon aimé. On voulait de la musique arménienne pour parler justement de votre rapport à l'Arménie. Camille Lévesque, vous avez fait une exposition qui s'appelle Tsvat Tanem, je prends ta peine en arménien. C'est très beau, c'est une expression fréquemment utilisée.
Oui, très fréquemment. C'est une expression qui signifie l'empathie. Qui est vraiment, moi je l'entends quotidiennement en Arménie, même là où j'habite à Alfortville, je l'entends très régulièrement dans la rue. Et ça dit littéralement « je prends ta douleur ». Et c'est quelque chose que vous diriez si quelqu'un vous confie une peine, si quelqu'un vous demande de l'argent, si quelqu'un exprime un souci, un problème. Et c'est vraiment, j'adore la langue arménienne, je la trouve très, très lyrique, très, très, très belle. Et vraiment, cette phrase, pour moi, elle est très importante. Elle montre un petit peu l'aspect lyrique de la langue. Et pour moi, c'était assez important de mettre ce titre pour un projet qui parle justement de la transmission du trauma, comme si je disais ça à ma grand-mère, à ma mère, à la grand-mère de ma mère. Voilà, pour moi, c'était un titre tout trouvé.
Vous parlez arménien couramment ?
Couramment, mais mal. De plus en plus mal, malheureusement.
Bon, ça peut s'arranger. Pensez-vous que nous subissions forcément un certain déterminisme hérité de nos ancêtres, vous qui vous intéressez à l'épigénétique ?
Je pense, oui. Je pense, dans une certaine mesure, ça dépend vraiment des histoires familiales, ça dépend des liens familiaux. Je pense que parfois, quand il n'y a aucune transmission, il y a une grosse envie d'aller chercher. Mais c'est souvent la troisième génération et pas la deuxième. La deuxième est beaucoup trop près du traumatisme de leurs parents pour le faire. Mais je pense qu'il y a une sorte de déterminisme, de résilience, de vraiment d'envie de comprendre aussi, surtout aujourd'hui dans le contexte global dans lequel on est, de donner du sens en fait, de comprendre d'où on vient et comment s'est passée l'histoire.
Mais il y a des choses qui se transmettent silencieusement. Selon vous, par exemple, si on se persuadait qu'on était bulgare ou mexicain, est-ce qu'on irait plus volontiers vers ces cultures ? Est-ce qu'un test ADN, par exemple, ça peut changer la façon qu'on a de se percevoir ?
Je pense qu'un test ADN, oui, peut changer la façon dont on se perçoit. Je pense que ça dépend vraiment de l'intérêt de chacun par rapport à ses origines. Certaines personnes ne sont pas du tout intéressées par ça. Après, je pense que ça dépend. J'ai rencontré quelqu'un il y a quelques années, c'est un projet que je développe en parallèle, qui a découvert à la mort de sa mère qu'il n'était pas d'origine arménienne parce que sa mère avait été adoptée. Et quand j'ai eu vent de cette histoire, ça m'empêchait de dormir pendant 2 jours. J'étais complètement bouleversée par cette histoire parce que du coup, je me demandais, et c'est le projet que je mène en cours avec cette personne, comment est-ce qu'on recompose, comment est-ce qu'on se recrée avec une histoire qui est en plus une histoire de la douleur. On se réveille un matin en se rendant compte qu'en fait, on ne fait pas partie de cette communauté-là, même si on s'y est intéressé, on a construit quelque chose avec, on découvre qu'on a été adopté et que donc on n'a pas de lien direct, mais un lien indirect qu'on a construit. Je trouve que c'est quelque chose d'assez, enfin même pas d'assez, je trouve ça vraiment passionnant.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Je te cherchais depuis longtemps, tu m'as laissé en t'en allant. Un grand paquet de mots d'amour et ce silence encore si lourd. Le souvenir de ces chimères que tu fuyais pendant la guerre. Les bateaux, les trains, les camions, les quais de gare et les wagons.
Yves Duteil, lettre à mon père, pour introduire le sujet qui nous préoccupe ce soir. Camille Lévesque, vous venez de publier chez Delpierre & Co l'ouvrage « À la recherche du père » qui donnera lieu à une exposition présentée à Arles à partir du 7 juillet prochain jusqu'au 5 octobre. Et l'objet est très beau, ça ressemble à un livre de prière ou à une Bible avec une couverture souple en faux cuir. Pourquoi l'avez-vous voulu ainsi ?
C'était un choix commun avec mon éditrice. On voulait vraiment un objet qui se fasse la Bible, la référence pour la réflexion autour du Père. Avoir un objet comme ça un petit peu précieux, vraiment un objet livre pour condenser vraiment tout ce qui avait pu être fait, pensé autour de cette figure du Père.
C'est un projet que vous avez débuté il y a 11 ans. Et il a été motivé par la complexité de la relation que vous avez entretenue avec votre Père, aujourd'hui disparu.
Oui, tout à fait. Donc j'ai perdu mon père en 2010, donc il a fallu quand même quelques années pour que je me résolve à travailler sur le sujet. Et en 2014, j'ai commencé à vouloir le faire, en fait, en triant, je collectionne énormément les photos, je collectionne beaucoup de choses malheureusement, mais je collectionne entre autres les photos de famille, que je trouve passionnantes. Et en faisant des tris, je me suis rendu compte quand même que celles qui avaient des pères, en tout cas, c'est ma perception, pour moi, dès qu'il y avait un homme dans la famille, pour moi, c'était le père, c'était pas long, je visualisais ce père. Je me suis dit que ça serait intéressant de travailler à partir de ces sources-là. Donc les prémices de ce projet, c'est de détourer le visage sur toutes ces photos dans une espèce de photoshopage assez grossier et de vraiment couper la tête telle qu'elle est au niveau du col de chemise en général, tout en gardant le corps, pour utiliser la photographie à contre-emploi et au lieu de montrer la vérité telle qu'elle est, de montrer l'absence. On utilise assez rarement la photographie pour montrer ce qui n'est pas. Et repenser un petit peu l'album de famille pour coller un petit peu plus à mon histoire, à mon récit d'un père absent. Donc c'est un petit peu comme ça que ça a démarré et au fil des années ça s'est vraiment développé dans d'autres formes, avec des collaborations, avec beaucoup d'écriture et avec d'autres formes photographiques.
Au début, vous interrogez plein de gens, ça je vais le détailler parce que c'est vraiment tout est absolument passionnant. Et puis à la fin, mais il faut quand même l'intégralité du livre pour y arriver, vous vous rapprochez de vous en vous soumettant aussi à l'exercice de l'interview et vous mettez aussi l'extrait d'une lettre de votre père.
Oui.
Je ne vais pas détailler cette lettre, je laisse les auditeurs la découvrir, mais comment vous l'avez perçue, vous, cette lettre ?
Je pense que quand je l'ai lue le lendemain de l'annonce de la mort de mon père, j'étais assez en colère, parce que c'était une lettre qui, pour moi, était la synthèse de quelqu'un qui se dédouane complètement, qui se déresponsabilise complètement, mais une fois que... Après la mort, post-mortem, c'était vraiment « je ne peux pas avoir cette conversation de mon vivant, voici ce que j'en pense et je me déresponsabilise complètement ». 15 ans plus tard, je la relis avec des yeux beaucoup plus tendres, beaucoup plus empathiques, et c'est des mots qui me touchent énormément. Il y a eu beaucoup de distance, il y a eu plus d'une décennie de distance. Mais il y a vraiment une grande différence entre la réception de cette lettre à l'époque et comment je l'aperçois aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui, pour lequel j'ai beaucoup de tendresse.
Est-ce que faire ce projet a fait décroître la douleur personnelle que vous aviez par rapport à ce sujet ?
Elle ne l'a pas fait décroître, elle l'a transformée. Je pense que j'ai une grande tendresse pour mon père aujourd'hui. Quelque part, je pense que depuis l'âge adolescent, je l'ai toujours eu. Ça a toujours été ni quelque chose de fusionnel, parce qu'on se connaissait très peu au final, ni quelque chose de belliqueux ou de troupe. C'était plus une sorte de tendresse timide, qui est aujourd'hui une tendresse profonde. Je préfère me concentrer sur des choses que je trouve belles, hein, que sur des choses que je trouve reprochables. Mais il a quand même fallu ces 10 ans, il a fallu toutes ces pages du livre et tous ces projets, toutes ces photos d'inconnus et toutes ces interviews pour moi oser ouvrir cette espèce de boîte à chaussures ou boîte de Pandore de ma propre histoire et oser m'attaquer à ces textes, à ces photos et à mon histoire à moi.
Vous dites que la famille nucléaire, comme structure familiale, vous angoisse profondément.
Oui, c'est vrai que en grandissant, parfois j'avais des amis qui avaient un père, une mère, qui représentaient un peu la famille ricouré, comme on la voit dans les publicités, qu'on voit dans les médias, dans les films. Et c'est toujours un format que je trouvais complètement fou. En fait, je me sentais mal à l'aise chez eux et tout le monde était incroyablement sympathique, avait l'air sain, ils avaient un équilibre qui pour moi n'était pas du tout mon équilibre. Donc je me reconnaissais pas du tout là-dedans et ça m'angoissait un petit peu.
Vous avez tapé sur internet figure paternelle, problème de père, meilleur père de tous les temps, tous les pères partent-ils, image du pire père en HD, famille heureuse avec un père. Qu'est-ce que vous avez trouvé avec image du pire père en HD ?
Alors c'est souvent des images qui sont liées à l'inceste, hein. Des commentaires en fait sous des posts, sous des articles qui parlent de pères incestueux. C'est quand même quelque chose qui revient beaucoup beaucoup, il faut le savoir dans les recherches Google, dès qu'on parle de père ou de lien entre père et fille, c'est vraiment l'inceste qui revient beaucoup malheureusement. Mais c'est vrai que j'aime énormément utiliser Google et aussi les réseaux sociaux. Je fais beaucoup de recherches par les réseaux sociaux et je trouve toujours des choses étonnantes, amusantes ou vraiment très très intéressantes.
Vous intéressez beaucoup. L'inceste est quelque chose sur lequel on va revenir et par des biais pas forcément attendus. Vous vous préoccupez aussi beaucoup de la gestuelle. C'est quoi la gestuelle d'un père ? En majorité ?
Alors en majorité, ça c'est pas présent dans le livre ni dans l'exposition, mais j'ai beaucoup travaillé sur justement cette gestuelle à partir des recherches qui revenaient le plus dans mes recherches Google. En fait, j'ai commencé à isoler les photos qui venaient de manière le plus récurrente. Donc par exemple les 4 schémas qui arrivent le plus, c'est de tenir la main vers un coucher de soleil sur la plage, de tenir sur les épaules, de jeter en l'air, et le père militaire qui revient de l'armée et qui a son enfant dans les bras avec la tête collée contre l'épaule. Ça c'est vraiment les 4 archétypes visuels qui reviennent énormément dans les recherches. Donc ça, par exemple, je faisais des tracés contre la photo de l'ordinateur pour vraiment avoir un peu cette espèce de prototype des gestuels. Et c'est quelque chose qui m'intéresse énormément depuis 10 ans aussi, c'est ces gestuels dans les photos de famille. Donc c'est quelque chose sur lequel je vais beaucoup me concentrer. Le langage corporel, il dit beaucoup de nous. C'est aussi un langage corporel qui est dans l'intimité. Ces photos de famille, c'est des objets intimes qui ne devraient pas être dans mes mains par ailleurs. Et souvent, ce que je fais en exposition avec ces images-là, c'est que je les fais vraiment en format papier peint pour mettre un peu en exergue mon impudeur, justement, ce traitement impudique de photos qui ne m'appartiennent pas, de détails qui sont vraiment des détails de l'intimité. Donc on voit un petit peu ces mains. Et souvent, ce que je mets en avant, c'est des mains réconfortantes, protectrices. C'est vraiment des gestes de tendresse. Je me concentre vraiment sur ces détails-là. Mais on parle de tout petits pans de la photo. Les photos de famille, c'est 10-15 cm de manière un peu générale. Et ces petites mains, c'est peut-être 1 cm par 1,5 cm. C'est vraiment moi qui vais aller scruter ces mains et les mettre en lumière pour essayer de comprendre justement qu'est-ce que c'est la tendresse d'un père, qu'est-ce que c'est le langage corporel d'un père.
Dans votre projet Universal Truth, vous aviez fait des sortes de puzzles. C'était des photos de famille recomposées de différentes familles, mais ça semblait... tout le monde semblait aller parfaitement ensemble.
complètement, mais c'est pas seulement de différentes familles, c'est de différentes époques, c'est de différents continents, et c'est ça qui me fascine, et ça j'en parle beaucoup, bah, évidemment à travers ce projet Universal Truth, c'est vraiment cette idée de l'authenticité de la photo de famille. Pour qui est-ce qu'on prend ces photos de famille? Est-ce qu'on les prend pour nous ou pour les autres? On se met en scène, c'est vraiment quelque chose qui est systématique, qu'on reproduit de génération en génération, on reproduit, on s'en rend pas forcément compte, mais on reproduit des positions qu'on a vues dans des photos enfants. Moi je sais que je fais poser ma fille parfois en me disant ça va ressembler à une photo qu'aurait pris ma mère, et ainsi de suite, ou que j'ai vu, que j'ai acheté, que j'ai collecté. Et il y a vraiment cette idée de reproduction dans la photo de famille qui porte à question, je trouve. Papa.
Le plus vieux souvenir que j'ai de mon père, en fait, non seulement j'en avais peur, mais aussi j'avais l'impression qu'il n'était pas là.
Le sentiment qui est prédominant dans ma relation avec lui, c'est vraiment les dégoûts.
Je lui en veux de ce sentiment d'abandon que j'ai senti toutes ces années.
Ce qui vient souvent me choquer, c'est le fait que quand on dit un père noir est absent, pour nous, c'est normal.
J'ai longtemps hésité à faire ce film parce que je me suis dit que ça pourrait renforcer les stéréotypes associés aux hommes noirs. Mais il faut qu'on en parle pour briser les tabous et avancer.
When fathers are absent, when they abandon the responsibilities to their children, we know the damage that that does to our families.
C'est un arbre généalogique. Moi, je suis la énième génération qui n'a pas grandi avec son père.
Le documentaire « La fête des pères » de Ayana Oshun, une odyssée intime sur le phénomène des pères absents dans les communautés noires. Et on a passé cette archive pour introduire, Camille Lévesque, le fait qu'en rassemblant des images de pères sur Internet, vous avez remarqué qu'ils étaient quasiment tous blancs et autour de la quarantaine. 7% des résultats étaient des hommes racisés, mais vous précisez que l'ordinateur était localisé en France et que vous n'aviez pas indiqué de descriptif visuel.
Oui, tout à fait.
Ça vous a surprise ?
Ça m'a surprise parce qu'il fallait vraiment aller à la page 15-20, aller vraiment loin dans la recherche Google pour voir des personnes racisées. Et c'était vraiment tout le temps le même prototype. Il y avait beaucoup d'images d'archives aussi. Il y a beaucoup d'images de militaires. Vraiment, ce père qui est en classe moyenne, en costume, qui travaille évidemment, qui est blanc et qui a, oui, la quarantaine. Donc c'est vraiment quelque chose qui revenait énormément. Et c'est comme ça qu'on introduit le livre et c'est comme ça qu'on introduit l'exposition aussi. C'est vraiment à quoi ressemble le père selon mes recherches, selon les résultats que j'ai trouvés dans mes recherches.
Il y a quelque chose qui frappe, c'est que les pères que vous interviewez au début de l'ouvrage, ils ont tous l'air très intelligents et sages. Et est-ce qu'on peut appliquer ce qu'on sait intellectuellement? Parce que sur le papier, ils ont l'air d'être des pères parfaits, mais est-ce que ça suffit de savoir quelque chose intellectuellement pour l'appliquer?
Pas du tout.
Ah oui.
Pas du tout. Je pense que c'est un panel qui est quand même en plus assez varié. C'est des hommes qui n'ont pas le même âge, qui n'ont pas la même expérience de la paternité et qui n'ont pas du tout, qui sont pas forcément des mêmes classes sociales. Il y en a que je connais personnellement, donc c'est vrai qu'il y a ce que je lis et ce que je sais. Il y en a que je connais pas forcément personnellement. Je pense qu'on peut intellectuellement, on voit bien parfois des psychologues qui avouent qu'ils aident, par exemple des psychologues de couple qui aident des couples en ayant eux-mêmes des difficultés dans leur vie amoureuse. Je pense qu'intellectuellement on peut comprendre, intégrer quelque chose, après l'appliquer, c'est quelque chose d'autre.
Il y a une question que je me suis posée en lisant ces premiers entretiens, c'est est-ce qu'ils se seraient livrés de la même façon au XXe siècle ?
Alors, je pense pas du tout. Je pense pas qu'ils se seraient livrés de la même façon. Déjà parce que je pense que la conversation aujourd'hui est ouverte sur la paternité, la déconstruction de la masculinité et du coup, par définition, de la paternité. Je pense que les hommes se remettent en question, j'espère. Ils réfléchissent à ces questions-là. Et je pense que ce soit les hommes ou les femmes, on pense vraiment qu'il y a des choses à changer, des choses à améliorer. Donc, c'est pas que ça aurait pas pu être possible, mais je pense que les réponses auraient été tout autres, évidemment.
Camille Lévesque, à un moment de l'ouvrage, vous écrivez quelque chose qui m'a fait réagir, je vous le lis. « Dès que je suis avec des hommes de la génération des boomers, je n'écoute quasiment jamais leur opinion, je rejette leurs commentaires sur pratiquement tout, sauf quand ces derniers sont sollicités, ils ne le sont quasiment jamais, ou pertinents, bien que trop souvent mindsplainés. De la même manière, je n'apprécie généralement pas les pères de mes amis et amies, ES, leur tendresse m'apparaît fausse ou leur dureté m'insurge. » Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est si un homme disait la même chose d'une femme, par exemple, dès qu'une femme d'un certain âge parle, je ne l'écoute pas, ce serait très violent. Mais j'ai tout de suite envie d'ajouter, et puis plein d'hommes l'ont déjà dit d'ailleurs. Mm-hmm. Mais ça vous choquerait ?
Ça me choquerait. Après, je pense que je suis habituée à ce que les hommes fassent des commentaires sur les femmes et un petit peu moins à ce que les femmes se permettent de faire des commentaires sur les hommes.
Mais est-ce qu'un boomer peut quand même être un chic type ?
Bien sûr. Je pense qu'un boomer, c'est, on utilise, moi, elle m'a mue, cette expression, c'est quelque chose que je tourne un peu en dérision. Mais boomer, c'est quand même une, on décrit une tranche d'âge, on décrit une génération. Dans cette génération, Dieu merci, il y a des hommes exceptionnels, il y a des femmes exceptionnelles. Je pense que pour moi, un boomer, c'est quelqu'un qui fait partie de cette génération et qui est l'archétype de cette génération, qui ne se remet pas en question, qui est vraiment dans des travers. Insupportable de penser que qu'il ou elle sait mieux que tout le monde. Encore une fois, c'est vraiment juste une génération de personnes. Et dans cette génération, Dieu merci, il y a beaucoup de personnes formidables.
Oui, d'accord. Donc, c'est pas toute la génération que vous condamnez.
Non.
Bon, me voilà rassurée. Et ainsi que plein d'auditeurs qui faisaient partie de cette génération et qui, je suis sûre, sont très bien. Il y a forcément des gens pas très bien aussi, mais non, pas dans les auditeurs de la 20e heure. Bjork, Human Behavior, qu'on analyse d'ailleurs dans la 20e heure ce soir sur France Inter.
Ah, ah, ah.
Qu'est-ce qu'on entend, Camille Lévesque ?
On entend Le Temps de Naïssem Jalal.
Une flûtiste, chanteuse et compositrice française d'origine syrienne.
C'est un morceau que je voulais partager parce que déjà, le temps, c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est quelque chose qui me touche. Et j'ai découvert cette chanson il y a quelques années sur France Culture avant de m'endormir. Et j'ai pas pu dormir parce qu'elle m'a tellement émue. J'ai fait un total syndrome de Stendhal en l'écoutant. Ça m'a bouleversée. Et j'ai fait une nuit blanche à la réécouter, à découvrir l'œuvre de cette femme, toutes ses autres musiques. Et je pense que ça raconte assez bien ma sensibilité et mon rapport à l'art en général, qu'il y ait eu un tel choc physique en moi qui m'empêche, comme une poussée d'adrénaline qui m'a empêchée de dormir et qui m'a mis dans un état incroyable.
Et alors, je vous ai demandé une découverte pour les auditeurs et j'aimerais savoir ce qu'elle a provoqué chez vous. À nouveau, Camille Lévesque, c'est Bob Thompson dans l'exposition Paris Noir à Beaubourg.
Alors, c'était beaucoup moins violent pour le coup comme sensation. Mais c'est vraiment une peinture qui m'a énormément interpellée. C'est vrai que parfois, on a l'impression, quand on est dans l'art, on a l'impression parfois de voir souvent la même chose, ou de voir des répétitions et de se lasser. On a parfois des moments où on est un peu blasé de ce qu'on découvre. Et là, tout à coup, j'ai eu comme un choc de me dire « c'est incroyable, c'est magnifique, je ne connaissais pas ». Et de plus tard dans l'exposition, de revoir une deuxième toile et une troisième toile, me dire « mais c'est formidable comme travail, et c'était la même personne ».
« Ma chère enfant, ce serait une grande faute que d'épouser votre père. C'est très simple, il faut le décourager sans le contredire. »«
Mais je l'aime. »«
Je sais que vous l'aimez. Mais je vous l'ai déjà dit, vous confondez les amours. »«
Il me presse et je dois lui rendre réponse demain. »
La situation mérite attention. Mon enfant, on n'épouse jamais ses parents.
Catherine Deneuve et Delphine Seyrig dans Peau d'âne de Jacques Demy. On revient à votre beau livre Camille Lévesque à la recherche du père qui donnera lieu à une exposition à Arles à partir du 7 juillet. Tout à l'heure, on a évoqué l'inceste parce que vous avez dit que ça revenait énormément et vous en étiez rendu compte dans votre recherche. Et vous avez interrogé des travailleuses du sexe. Et vous êtes rendu compte que c'était un fantasme assez récurrent chez certains de leurs clients.
Oui, alors je le savais déjà un petit peu en ayant fait des recherches, notamment sur des plateformes comme Pornhub ou en ligne en fait, pour voir un petit peu l'ampleur. Mais je trouvais ça intéressant. C'est une chose de regarder un film pornographique à la maison dans son intimité chez soi, et c'est autre chose d'aller voir quelqu'un, une travailleuse du sexe ou un travailleur du sexe, pour demander une simulation d'inceste ou un jeu de rôle autour de ça. C'est quand même une démarche qui est très différente. Le fait de me rapprocher des travailleuses du sexe, c'était vraiment... je voulais parler de plein de sujets à la fois. En fait, je voulais parler du patriarcat en général. Je voulais parler du travail du sexe, mais je voulais surtout parler de ce fétiche de l'inceste. Et ça a été assez unanime. Elles m'ont toutes dit que c'était quand même assez présent, qu'on leur en faisait la demande et que c'était en général des demandes assez spécifiques.
Vous êtes aussi allée voir un prêtre.
Oui.
Le père Yves Petiton, prêtre de la mission catholique de France qui officie à Ivry-sur-Seine. Son intelligence est vraiment frappante. Il est prêtre au travail, il a été médecin pour les enfants et il nous apprend déjà que dans l'évangile, Jésus dit qu'il ne faut appeler personne maître, seigneur ou père. Donc déjà, on ne respecte pas l'évangile. Et il explique aussi qu'en Afrique, le père est le géniteur, mais que celui qui exerce la fonction domestique à côté de la mère est souvent le frère de la mère, donc l'oncle.
C'était passionnant, ça. C'était un échange passionnant. C'était une personnalité très bienveillante. Et vraiment, c'était très intéressant comme échange. C'est vrai que j'étais très intriguée de cet usage du mot père dans la religion catholique. D'entrée, il m'a dit, en fait, il ne faut pas le faire. Je ne sais pas pourquoi on continue à le faire. Et c'est vrai que justement, j'ai beaucoup aimé qu'il y ait une portée un peu globale dans son discours et qu'il me parle justement de son expérience en Afrique et des différences aussi culturelles et de justement ce rôle de l'oncle. Et je trouve ça assez intéressant justement que le père soit vraiment. Il représente une graine, quoi, le spermatozoïde qui est vraiment le géniteur. Mais tout le travail domestique, le travail d'éducation, ce sera l'oncle. Donc je ne sais pas si c'est vraiment globalement sur tout le continent africain, qui est quand même assez différent d'un pays à l'autre. Mais en tout cas, de son expérience, il avait l'air de dire que c'était quelque chose qui se faisait couramment.
Il est très contemporain puisqu'il parle aussi de la psychanalyse. Et oui. Il dit que ce qu'elle nous apprend, c'est qu'en fait, on n'est jamais complètement équilibré.
Oui.
C'est un soulagement de savoir ça.
Complètement.
Comment pensez-vous être en tant que mère ?
C'est une question très difficile. Je pense que c'est une question que malheureusement, je me pose quotidiennement. Je fais partie d'une génération qui se remet énormément en question par rapport à la parentalité. Je pense que je suis une mère qui est dans la continuité de qui je suis en tant que personne, c'est-à-dire très intense. J'essaye de minimiser mon intensité avec ma fille, parce que ça a des choses positives et belles, mais ça a aussi des aspects négatifs. Je pense que je suis une mère à l'écoute, aimante et admirative, émerveillée par l'existence de ma fille.
Je vous ai demandé hors antenne s'il y avait un père, parce que je ne voulais pas commettre de faux pas pendant cette interview. Vous m'avez dit que oui. Alors, je vous pose la question, Camille Lévesque. Bon, a-t-il lu l'ouvrage et avez-vous parlé avec lui de ce que vous attendiez de lui en tant que père ?
Il a lu l'ouvrage, il a participé à l'ouvrage, il connaît le travail depuis la création, le tout début du projet. On a beaucoup parlé de la parentalité et des rôles parentaux et de ce qu'on envisageait, de ce qu'on fantasmait, de ce qu'on voulait pour en tant que parent. Et c'est vrai que c'est une conversation qu'on a aussi, je ne vais pas dire quotidiennement, mais peut-être mensuellement, sur le rôle des parents. Je pense que moi, je me suis pris en plein visage la charge parentale, la charge maternelle, la charge mentale maternelle à la naissance de ma fille, même pendant la grossesse, en fait. Je me suis rendu compte, en fait, du poids de l'hétéronormativité, de ses rôles de genre. Donc, c'est une conversation qu'on a assez régulièrement pour qu'on se sente tous les deux bien dans notre parentalité et qu'on se sente tous les deux à notre place. Mais c'est quelqu'un de profondément intelligent, de profondément aimant. Et il y a des choses dont on discute et il y a des choses dont on n'a même pas besoin de discuter parce qu'elles sont évidentes, c'est une évidence.
Vous avez dit le mot intelligence et vraiment la chose qui m'a le plus frappée dans cet ouvrage finalement, c'est que qui que ce soit que vous interrogiez, les travailleuses du sexe, le prêtre, les pères, vraiment tous les gens qui sont interrogés dans ce livre ont l'air d'une lucidité et d'une intelligence extraordinaire. Et donc en fait, je me suis dit, bah oui, en fait, quand on pose des questions intimes à quelqu'un, quelque chose de passionnant se dégage. Et finalement, moi j'ai l'habitude de le faire dans l'émission. En fait, j'ai un cadre pour ça. Mais la plupart du temps, on pose pas du tout de questions aussi intimes et essentielles aux gens qui nous entourent, même à nos proches. Et finalement, c'est ce que vous avez fait. Et en fait, quand on le fait, il y a toujours quelque chose de fascinant qui se dégage.
Oui, je suis d'accord. C'est quelque chose qui est arrivé quand même assez tard dans ma pratique. Ça a dû arriver vers 2019. Pendant un long moment, c'était mon point de vue, mon regard, ma recherche. Et vu que je suis très intéressée aussi par le lien entre le point de vue collectif et le point de vue individuel, j'avais vraiment besoin, aussi comme un exutoire, de parler aux autres, de leur dire « vous, qu'est-ce que c'est votre expérience ?» Et c'est vrai que je pense, je ne sais pas si le mot que j'aurais utilisé c'est de l'intelligence, parce que je ne sais pas si je peux la quantifier ou m'en rendre compte, mais c'est vraiment la sincérité.
Oui, ou la sensibilité, parce que parfois elles disent, je pense aux travailleuses du sexe qui disent « j'ai pas trop de rapport avec mon père » ou certaines qui en ont d'ailleurs et qui disent « ils comprendraient pas, de toute façon je lui ai pas dit », mais elles sont vraiment très lucides sur absolument tout. Il y a des gens qui parlent pas à leurs parents et un fruit va symboliser un rapport qu'ils ont parce que leur père vendait ce fruit-là sur un marché et c'est là que la relation se cristallise. Et ils savent, eux, parce que vous leur posez la question, qu'ils aimeraient que leur relation soit plus forte avec leur père, mais ce n'est pas le cas. Ils ne formuleront peut-être jamais à leur père.
Non. Mais c'est vrai que cette vulnérabilité, cette sincérité, elle m'a beaucoup frappée. C'était vraiment des moments très émouvants parce qu'il y a quand même des témoignages qui sont très durs. Et je remercie toutes les personnes qui ont participé de m'avoir fait confiance avec ces témoignages parce que c'est pas rien. Et je pense que je suis vraiment arrivée avec peut-être de la naïveté, mais beaucoup de moi-même de sincérité quand j'ai posé ces questions et que le résultat était vraiment des échanges humains passionnants et émouvants.
Vous faites d'ailleurs, vous citez toujours les chiffres comme dans un sondage. Vous dites, j'ai demandé à tant de personnes m'ont répondu, tant de personnes ont voulu que ce soit anonymisé, tant de personnes ont joint une photo ou tant de personnes. Et j'ai vu que sur, je peux pas citer les réseaux sociaux directement, mais sur votre réseau social principal, à Images, les gens trouveront, vous faisiez aussi ça pour les commandes artistiques qu'on vous faisait. Le nombre d'hommes qui vous ont demandé une commande, le nombre de femmes.
Oui, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai commencé, je pense, en 2018. Je me suis rendu compte, en fait, qu'il n'y avait que des femmes qui me donnaient du travail, que des commissaires d'exposition qui venaient vers moi, que des journalistes, que des directrices de centres d'art, que des éditrices. Enfin, c'était vraiment écrasant. C'était 99% pour 1% d'hommes, éventuellement, qui avaient été. Mon travail avait été recommandé, je l'ai appris après, par une femme. Et c'est quelque chose que je voulais partager parce qu'il y a quand même pas une parité exceptionnelle dans le monde, dans le monde en général, mais dans le monde de l'art, c'est quand même, on n'y est pas. On n'y est pas tout à fait. Et je voulais non seulement dénoncer ça, mais aussi montrer cette sororité, montrer qu'il y avait quand même ça qui était très présent. Et c'est vrai que j'aime bien les chiffres. J'aime bien, je me suis découverte un peu cette passion. Ça m'intéresse beaucoup.
Merci beaucoup Camille Lévesque.
Merci à vous.
Votre exposition « À la recherche du père » sera aux Rencontres photographiques d'Arles du 7 juillet au 5 octobre prochain. Votre livre « À la recherche du père » est paru aux éditions Delpire & Co. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Betty Algret et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin. À la technique, Sofiane Actib.